France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Jusqu'où se propage l'onde de choc au quatrième jour de la guerre en Iran? Est-ce qu'elle s'approche de nous en Europe? Le président Macron parle tout à l'heure, dans moins d'une heure. On attend probablement évidemment quelque chose de rassurant, mais le fait qu'il s'exprime dit aussi des choses. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans ce conflit poussé, malgré nous, par les Américains, ou plus volontairement, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni sont prêts à aider à détruire des rampes de lancement de missiles? Vous l'avez entendu, qu'est-ce que ça implique? Vous nous direz si vous la voyez, cette perspective-là. Jusqu'où se propage l'onde de choc? Quand un régime aussi puissant et violent que l'Iran est déstabilisé au bord de tomber, mais qu'il met tout ce qu'il a dans la bataille, c'est tout le puzzle de la région qui tangue. Est-ce qu'il peut tanguer pour le meilleur? On n'est pas obligé d'être toujours pessimiste, nous le verrons. Un autre ordre mondial, dès lors que l'Iran n'est plus le même, à quoi ça ressemble? Jusqu'où se propage l'onde de choc? Quand la Chine voit vaciller un allié historique, quand la Russie voit vaciller un allié historique et qu'elle ne bouge pas un cil, pas plus qu'elle ne l'avait fait d'ailleurs quand la Syrie de Bachar est tombé, quelle leçon cela nous apprend pour un futur proche ou des conflits plus proches. C'est pour tout ça d'ailleurs peut-être aussi que nous sommes nous Européens dans la partie, parce que tout peut basculer, les alliances, les puissances, parce que laisser tout le terrain à la seule Amérique dans un après, est-ce que c'est bien raisonnable? Parce que aussi si tout s'embrase, ne perdons pas de vue quand même que Téhéran met en garde les Européens contre toute implication, ça aussi c'est une onde de choc. C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Augustin, vous êtes à Maastricht, Augustin, et on vous écoute, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à vos invités.
Bienvenue Augustin.
Alors voilà, donc je voulais partager avec vous mon état de sidération, en fait, quelque part, depuis samedi matin, quand je me suis réveillé, que j'ai vu que, voilà, un nouveau conflit avait été déclenché dans le monde. Voilà, j'ai 19 ans, et bon, on a grandi ces dernières années, enfin je dis on, je parle voilà, au nom de mes camarades et de quelques membres de ma génération aussi. En disant, voilà, on grandit dans un monde de conflits, de plus en plus perturbés, donc j'avoue qu'on a un peu de mal à se projeter dans le futur. On se dit que, voilà, comment sera le monde dans 5 ans, dans 10 ans, que, quand on devra, nous aussi, jouer notre rôle. Vous avez rappelé dans votre introduction le rôle important joué par les Européens. Vous l'avez dit aussi, je viens de Maastricht, je crois en l'Europe, alors je me demande, voilà, comment est-ce que l'Europe peut jouer son rôle? Et en voyant les derniers basculements géostratégiques, quelle forme aura l'Europe dans l'avenir? Voilà.
Merci beaucoup pour cette très jolie entrée en matière, Augustin. Vous avez même peut-être préfiguré un téléphone sonne de fin de semaine. Je vous en parlerai une chose après l'autre. Voici les invités qui sont autour de cette table et qui vont pouvoir nous aider à comprendre tout ça ensemble jusqu'à 20h. Il y a Bernard Ourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur émérite au CNRS. Vous écrivez dans Orient 21. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Il y a Elie Tenenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Et il y a aussi Isabelle Lasserre, bonsoir.
Bonsoir.
La correspondante diplomatique du Figaro, c'est vous. J'aime bien la question d'Augustin, Elie Tenenbaum, c'est avec vous peut-être qu'on va commencer. Parce qu'au fond, ce que j'entends dans le sous-texte, c'est aussi... c'est d'autant plus inquiétant que l'Europe subit ce conflit et subit des décisions qui sont prises. Est-ce qu'on dit ça en ce moment de l'Europe? On est à une grosse demi-heure d'une intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est aussi parce que nous le subissons, ce conflit.
Disons que nous sommes entrés depuis quelques années maintenant dans un monde qui est marqué par les rivalités de grandes puissances, par les stratégies d'action militaire, de coercition de façon assez débridée dans un système international qui prend l'eau de toutes parts, avec un Conseil de sécurité qui ne fonctionne plus, qui ne remplit plus son rôle, et l'Europe dans ce système-là qui était très largement bénéficiaire et issu de ce monde post-1945 avec des institutions, avec un ordre international fondé sur les normes, ça avait été rappelé et débattu à Davos par le Premier ministre canadien, finalement aujourd'hui n'a pas effectivement les pièces dans son jeu ou les cartes dans son jeu pour s'imposer. Elle cherche à d'abord et avant tout assurer sa propre sécurité dans un environnement proche qui est dégradé, notamment marqué par la menace russe et la guerre d'Ukraine. Et effectivement, les menaces qui sont plus éloignées sur ses alliés, sur ses partenaires de sécurité, elle essaye, on va dire, autant que possible, et ça sera sans doute l'un des axes de la réponse française, d'honorer ses engagements, mais elle ne peut pas imposer la paix fait au monde face à des acteurs qui de plus en plus ont décidé de choisir les armes pour régler leurs différends.
Isabelle Lasserre, est-ce que on peut basculer à certains degrés, bien sûr, mais basculer malgré nous? Et est-ce qu'on le fait pour exister, nous Européens et nous Français peut-être en particulier, puisqu'on a bien vu que c'est la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni notamment qui avaient même proposé une forme d'implication. Donc est-ce qu'on le fait pour exister ou est-ce qu'on le fait aussi pour être respecté et pour exister dans le futur ordre du monde qui forcément sortira de ce conflit-là?
Bah, c'est-à-dire que basculer, je ne sais pas, c'est un petit peu trop tôt. Il va falloir, il faut qu'on attende de voir quelle forme ça prendra. On a des accords de défense avec certains pays du Golfe qui sont attaqués aujourd'hui par l'Iran en réponse à l'attaque israélo-américaine. Donc on peut difficilement rester sans voix. C'est vrai que l'Europe a vraiment du mal à trouver sa place dans ce conflit, y compris la France, alors que la France, normalement, devrait l'avoir de façon quasi naturelle, parce que ce sont les diplomates français, les spécialistes de la stratégie française, qui ont mené pendant de très très longues années les négociations sur le nucléaire iranien. Et ce sont les Français qui connaissent le mieux le sujet, les négociateurs iraniens. Donc c'est vrai que la France a théoriquement une place à tenir dans ce qui est en jeu. Le problème, c'est que aujourd'hui, on vit dans un monde, comme le disait Elie Tenenbaum, où c'est le règne de la force. Alors c'est vrai quand on parle de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping, mais c'est aussi vrai quand on parle de Donald Trump aujourd'hui. Et l'Europe brandit en face de ça le droit international, mais sans véritable force pour pouvoir le faire respecter, ce droit international. Et on est dans un monde où seule la force compte et seule la force paye. L'autre problème de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas unanime. Elle a toujours complètement ses divisions. Et là, c'est marrant parce que les positions des pays européens sont presque, on a l'impression qu'elles sont presque déconnectées du sujet, qui est le sujet du régime iranien d'un côté, puis de l'autre côté du programme nucléaire et de tous ces à côté. Mais on a l'impression que les pays se rangent en fonction de la proximité qu'ils ont avec Donald Trump et de la peur qu'ils ont d'une rupture avec Donald Trump. Le fait est que il n'y a pas d'unanimité sur la position européenne, donc ça va être très compliqué. Ça ne peut être qu'une réponse effectivement en E3, Royaume-Uni, France, Allemagne. On va voir jusqu'où. Mais enfin, on n'est pas encore. Il est assez peu probable que pour l'instant on rentre dans la campagne israélo-américaine.
Des missiles probablement. Là, par exemple, le Royaume-Uni a finalement décidé de laisser utiliser ses bases. Enfin, voyez, il y a des signes qui sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Bernard Hourcade, quand Téhéran dit met en garde les Européens contre toute implication? Est-ce que ce sont les mots de toute façon habituels qu'on entend dans ce genre de situation? Ou est-ce que quand même, on s'en inquiète un peu?
On s'en inquiète, mais moi je suis surpris par le fait que les acteurs de cette crise, de ce drame, ne sont pas justement les grandes puissances. C'est Israël qui mène la danse, c'était le Hamas qui a provoqué la crise que l'on connaît, d'où les réactions en cascade, et qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas maîtrisé le combat Hamas-Israël, on déplore les morts, on compte les morts. L'Iran est une puissance moyenne quand même, et en 2003, De Villepin, Stroh et Fischer avaient trouvé la première faille du système iranien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On le pleure, on le regrette, mais concrètement, ce sont les Iraniens qui ont la main. Et les Iraniens mènent leur propre politique d'indépendance, de fierté islamique, tout ce qu'on voudra. Et donc, le combat qui m'a frappé ces jours-ci, c'est le fait que Trump, finalement, a suivi l'Israël, de mon point de vue. C'est Israël qui a
besoin. Là, il vient de dire le contraire, mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne sait jamais ce que dira Trump encore demain. Donc, mais là, il dit exactement le contraire, à l'instant.
Et donc, il a été obligé, dans les négociations, Trump était en train de négocier pour la deuxième fois. Et les Israéliens n'ont pas envie d'une négociation Iran-États-Unis parce qu'ils craignent, ils ne veulent pas d'un Iran fort, quel que soit le régime. Donc le changement de régime, l'assassinat du guide, etc., c'est une façon de satisfaire le bon peuple, en quelque sorte. Mais sur le fond, c'est quand même Israël qui a mené la danse. Et Trump, la plus grande puissance du monde, a été amené à soutenir Israël. Et les Iraniens essaient de jouer leur jeu. Et les Iraniens de trouver l'alliance avec les Chinois On n'a pas vu encore les BRICS, on en reparlera peut-être. Le Brésil, où est le Brésil? Où sont l'Indonésie? Les pays moyens qui étaient avec l'Iran, qui ne sont pas là pour l'instant.
Vous voyez, Isabelle Lasserre, je vous parle à vous parce que je pense à un papier que j'ai lu de vous dans votre Figaro ce matin. On a Nicole sur WhatsApp qui nous dit qu'elle comprend la réaction de notre premier auditeur, notre premier jeune auditeur tout à l'heure, et qu'elle elle partage aussi cette forme de ressenti avec ses amis en se disant que, mais à l'âge que j'ai, elle nous dit qu'elle a 58 ans, quel monde on est en train de préparer. Moi, je me demandais si on pouvait aussi imaginer une sortie vertueuse. Alors, pas demain, pas à très court terme. Évidemment, on est dans une guerre et une guerre qui fait des morts. Mais est-ce qu'on peut imaginer que de ce bouleversement qu'on est en train de vivre sorte quelque chose de vertueux ?
Oui, alors, c'est vrai que tout le monde a peur. La guerre, c'est mal. Tout le monde est contre la guerre. Mais de temps en temps, du mal peut sortir le bien. On ne peut pas, même si ce n'est pas le plus probable, on ne peut pas non plus complètement exclure qu'on arrive à la fin de cette guerre avec un peuple iranien libéré et qui petit à petit, mois après mois, année après année, arrive à produire un gouvernement laïque et démocratique comme une partie des opposants iraniens le réclament aujourd'hui. Donc c'est vrai que potentiellement, si ça se passe bien, alors après, ok, là je fais la version optimiste, ça se passe bien, que Trump réussit son pari jusqu'au bout, on a vraiment un tremblement de terre positif dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire que si on a une chute du régime iranien, avec un gouvernement normal qui prend la suite, on peut aboutir à une asphyxie totale des groupes terroristes dans la région, notamment le Hezbollah, le Hamas. On peut envisager un rapprochement entre Israël et l'Iran, comme ce fut le cas avant la révolution islamique de 79. On peut... Pourquoi vous dites oula?
Bah, je dis parce que vous avez des perspectives qui sont ambitieuses.
Non, je vois à long terme.
Ouais, je vois bien.
Bon, ok, je peux vous faire la démonstration inverse.
Non, surtout pas. Restez d'abord dans la version optimiste.
On peut aussi se dire, enfin, voir ce qui peut sortir de bien. Je continue sur ma lancée optimiste avec un rapprochement de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. Et donc, si on coupe la tête du principal pays déstabilisateur de la région, on peut, en théorie, avoir un Moyen-Orient un peu plus stable, entraînant l'élection d'un nouveau gouvernement israélien plus modéré, qui ouvre de véritables négociations avec les Palestiniens. Vous voyez où ça peut se mener. Je pense qu'il est quand même intéressant de se projeter dans l'avenir. Bien évidemment, aujourd'hui, personne ne sait où va aller cette guerre. Personne ne peut certifier que le régime tombera. S'il tombe, personne ne sait si le chaos ne l'emportera pas,
Isabelle
etc. Lasserre,
puisque vous avez pris la version optimiste, moi je suis contente qu'on ait eu quand même une version optimiste. La question que j'ai envie de vous poser, Elie Tenenbaum, c'est surtout, est-ce qu'il n'y a que, justement, une version optimiste ou une version terrifiante et chaos? Qu'est-ce qu'il y a au milieu, en fait? Parce que c'est le milieu qu'on va vivre.
Je pense que l'exercice intellectuel sur l'optimisme auquel vient de se livrer Isabelle Lasserre est intéressant, parce que ceux qui entrent en guerre sont toujours des optimistes, c'est-à-dire sont toujours ceux qui imaginent qui vont pouvoir, par la force des armes, finalement, parvenir à des fins. Et donc, d'où ça pose la question des buts de guerre. Et c'est vrai que si vous entendez que ce soit Benjamin Netanyahou ou Donald Trump, ils espèrent, et ça, c'est une nouveauté, on va dire, dans la mise en œuvre d'une opération militaire destinée à mettre en place les conditions d'un renversement du régime. C'est pour la première fois, en juin 2025, vous aviez eu, pendant ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, une opération militaire ciblée qui était dédiée à la neutralisation du programme nucléaire iranien et qui avait entreaperçu à un moment la question du changement de régime, mais sans du tout s'y fixer. Là, c'est quelque chose qui a été identifié d'emblée par Trump, par Netanyahou, comme d'une certaine manière le point d'entrée, l'objectif de cette opération, avec effectivement la question d'une prise de relais, d'une opposition et interne et externe, avec des figures qui font évidemment beaucoup discuté sur leur légitimité, mais c'est en tout cas c'est important de comprendre que ceux qui ont lancé cette opération, ils espèrent bien déboucher sur ce type de résultat. Entre temps, évidemment, il y a un milliard de choses qui peuvent mal tourner et qui tourneront mal d'une manière ou d'une autre. C'est la loi de Murphy des études stratégiques, et effectivement, ça tend plutôt en général à mal tourner. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme de risque d'embrasement ou d'élargissement du conflit. Ça ne veut pas dire que à moyen terme, les choses tourneront le plus mal possible.
Après, Bernard Ourcade, du coup, j'ai cherché moi aussi cet après-midi, et je ne sais pas, mais peut-être que vous allez me contredire, et j'adorerais que vous puissiez me contredire d'ailleurs, je ne sais pas citer un pays qui, après la mort de son oppresseur, ait abouti à un système, sinon démocratique, mais en tout cas construit et stable de manière pérenne. Je ne sais pas citer ce pays-là. Donc la question que je me pose, peut-être que vous allez m'aider à y répondre, Monsieur Ourcade, c'est est-ce que ce qui se passe là nous montre aussi que la stratégie des puissances est en train de bouger. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus de toute façon à détruire coûte que coûte, parce qu'on sait bien qu'une autre pousse va sortir de l'Iran et on ne sait pas quelle tête elle aura, mais au moins à affaiblir. Affaiblir, ça veut dire dominer. Et c'est peut-être ça aussi le changement, et c'est peut-être ça aussi là que nous emmène l'Iran aujourd'hui, affaiblir pour dominer, pour les Américains comme pour les Israéliens. Est-ce que ce ne serait pas même suffisant ?
Oui, je crois que les buts de guerre sont différents. Un élément important, c'est de prendre en compte justement les populations. Qui jusque maintenant ont été un peu méprisés. On a parlé au moment des indépendances.
Je suis assez d'accord avec vous.
Les États ont pris le pouvoir. Donc il y a des États, en Afrique par exemple, chaque pays est là, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. L'Iran et le problème israélien-palestinien aussi est un héritage politique. On a coupé le territoire d'en haut. On a décidé ici serait Israël, ici serait la Palestine, et ça ne marche pas. Et les Palestiniens réclament quelque chose, les Israéliens aussi, les Iraniens aussi. Les printemps arabes, ça a fonctionné. Ça existait, il y a une dynamique, et on n'est pas le pareil. Donc, il y a l'émergence des sociétés civiles, l'émergence des populations qui peuvent s'exprimer de façon très différente, parce qu'elles sont beaucoup plus instruites qu'elles n'étaient il y a 50 ans. C'est une nouvelle réalité qu'il faut prendre en compte. Et donc, l'Iran est un bon exemple de cela.
Et c'est réellement le cas pour les Iraniens, effectivement.
Oui, parce qu'en Iran, effectivement, vous avez un régime qui est là, et qui est bien clair, avec son despotisme assez banal, finalement. C'est une bonne dictature traditionnelle. Ouais. Mais il y a une population qui, derrière, essaie de s'exprimer, en bien ou en mal, on verra bien.
Un tout petit mot, Elie.
Vous avez la réalité de ce système répressif et milicien iranien qui est effectivement considéré comme le point bloquant pour permettre à la population de s'exprimer. Mais vous avez un autre cas d'étude qui est le cas libanais, je pense, qui est très important à l'esprit des Israéliens quand ils se lancent dans cette opération. Ce qu'ils estiment avoir réussi à faire en octobre 2024 en finalement neutralisant complètement la chaîne de commandement du Hezbollah libanais et à un moment de permettre finalement une sorte de déblocage politique. Alors la situation du Liban n'est pas celle de l'Iran, loin s'en faut aujourd'hui, mais finalement y a l'idée que par des frappes aériennes, par de la coercition, encore une fois, ils arrivent à, d'une certaine manière, peser sur l'équation politique interne. En tout cas, c'est leur espoir.
Voici la question de Jérôme, elle est pour vous, Isabelle Lasserre. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors d'abord, vive l'audiovisuel public. Et ensuite, ma question, c'était, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine? Parce que si j'ai bien compris, la plupart des attaques menées par la Russie sont faites avec des drones livrés par l'Iran. Or, j'imagine qu'aujourd'hui, l'Iran réserve tous ses drones pour se défendre.
Merci beaucoup pour votre question, Jérôme. Moi, j'avais cru comprendre, Isabelle Lasserre, que désormais la Russie savait les fabriquer, ces drones.
Alors,
mais
en fait,
néanmoins,
c'est-à-dire que,
quand même.
Oui, au début de la guerre, l'Iran a livré des drones Shahed à la Russie. Mais l'Iran a aussi aidé la Russie à installer des usines de drones Shahed, notamment à côté de Moscou. Et aujourd'hui, la Russie est, en quelque sorte, un petit peu indépendante de l'Iran à ce niveau-là. Donc, ça ne change pas vraiment. C'est pas un game changer là-dessus. Maintenant, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle pour l'Ukraine ? Peut-être. Il est trop tôt pour répondre. Est-ce que on voit les influenceurs russes depuis trois jours qui s'interrogent sur leurs réseaux sociaux et qui se disent, bon, ben, finalement, Trump a réussi en 48 heures à obtenir ce que la Russie a essayé pendant 4 ans sans réussir, c'est-à-dire avoir la tête du régime. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas les prochains ? Est-ce que ce ne sera pas la théorie des dominos ? Alors, la réponse est sans doute non, parce que la grande différence entre l'Iran et la Russie, c'est que la Russie a la bombe nucléaire et l'Iran ne l'a pas, en tout cas pas encore, et du coup est reparti très loin dans son programme nucléaire avec ses bombardements. Mais est-ce que ça peut pousser Vladimir Poutine à un cessez-le-feu, peut-être. Mais là, c'est là qu'on retombe sur une logique qui est un peu la même à Moscou et en Iran, c'est-à-dire que l'idéologie et les ambitions régionales de ces deux pouvoirs sont maximalistes et sans fin, et que si jamais Vladimir Poutine est poussé à signer un cessez-le-feu, ce sera sûrement dans sa tête un cessez-le-feu provisoire et non pas une paix durable. Mais ça risque quand même de faire bouger un petit peu quelques pions du jeu.
Élie Tenenbaum, allez-y, puis j'ai une question pour vous à ce sujet-là aussi, M. Orkan.
Bon, effectivement, stratégiquement, à long terme, l'Iran était un partenaire stratégique essentiel de la Russie, donc ça ne peut pas être une très bonne nouvelle pour la Russie de perdre à nouveau un partenaire stratégique, comme ça avait été le cas de Bachar al-Assad, comme ça avait été le cas du Venezuela, etc. En revanche, sur le plan rapide, d'abord, les Shahed 136, qui étaient effectivement initialement livrés par l'Iran, ils sont effectivement entièrement construits aujourd'hui dans le complexe d'Alabouga, sur la mer Caspienne. Plus de 80 000 Shahed par an sont produits par la Russie, de façon entièrement autonome, pour être entièrement, intégralement envoyés contre l'Ukraine. Donc il n'y a pas d'effet d'éviction pour la Russie. En revanche, les intercepteurs de défense antiaérienne Patriot, dont l'Ukraine a désespérément besoin et qui devaient être livrés à l'Ukraine par les États-Unis après être payés par les Européens, aujourd'hui ils sont envoyés en priorité pour protéger les forces américaines dans le Golfe et Israël. Et donc ça, c'est autant d'intercepteurs que l'Ukraine n'aura pas. Enfin, les prix du pétrole augmentent, et ça c'est une très bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, puisque le pétrole qui vaut plus cher, c'est des revenus en plus pour la Russie à moyen terme.
Et en même temps, je me demandais, Bernard Ourcade, si la Russie n'était pas le un peu quand même le perdant-perdant de cette histoire-là, parce que elle a les mains pleines avec l'Ukraine, évidemment, en ce moment. Elle vient évidemment pas au secours de l'Iran, il n'y avait aucune chance qu'elle le fasse, ça, on était d'accord avec ça. Mais elle ne bouge pas, elle n'avait pas bougé pour la Russie, pour la Syrie. Est-ce que vis-à-vis de ses alliés, désormais, la Russie, c'est ce grand pays qui a tellement de mal avec sa propre guerre qu'on ne peut plus compter sur elle? Est-ce qu'il y a ça comme effet secondaire ou pas?
Oui, la Russie et l'Iran sont des rapports de chien et chat. Ils sont voisins à l'époque du chat, c'était l'URSS, et le chat avait des relations de bon voisinage. Les deux pays ont énormément de conflits frontaliers, ces deux pays voisins. Autrement dit, la Russie ne comptait pas sur l'Iran, et l'Iran ne comptait pas sur la Russie. Même si pendant la guerre Irak-Iran, ils ont donné un coup de main, ne sont jamais investis. La Chine, c'est une autre histoire. Mais la Russie et l'Iran, ce sont avant tout des questions de pays voisins, gestion de la Caspienne, gestion du bon voisinage, exportation du gaz. Ce ne sont pas des alliés, et ce ne seront jamais des alliés.
On est en train de parler de zone de choc, et jusqu'où va-t-elle dans le téléphone sonne ce soir avec Bernard Ourcade, que vous venez d'entendre, avec Élie Tenenbaum et avec Isabelle Lasserre.
France Inter, le 18-20. 01 45 24 7000.
Et avec vous, Bruno, aussi, qu'on attendait. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le bienvenu.
Alors, pour ma part, je suis un petit peu abasourdi parce que toutes ces nations occidentales, Europe et France incluses, parlent très souvent de droit international. Il se trouve que dans ce contexte-là, les impérialistes israéliens et américains ont déclenché un conflit sans avoir d'autorisation, de consensus avec l'ONU, avec qui que ce soit. Ils font ça de manière unilatérale. Sur quelle base? Personne n'en sait rien. La plupart des experts expliquent que l'argumentation sur le nucléaire iranien, c'est du pipeau.
Oui.
Et il se trouve que on entend maintenant les Européens, France, Allemagne, Grande-Bretagne en tête, expliquer que il faudrait aller défendre les autres pays de la région, etc. Non, moi je suis désolé. Je pense que les Européens n'ont rien à faire dans tout cela et qu'ils seraient bien inspirés de rester en dehors de ce conflit.
Voilà. Merci beaucoup, Bruno, pour cette remarque. Élie Tenenbaum, ça nous rappelle aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on y va? Enfin, on y va. Alors, pardon, hein, on n'est pas en train de larguer des bombes, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que on en parle de plus près, on va dire, en Europe? On le fait contraint et forcé. Et en ayant pris le droit international de plein fouet et sans pouvoir rien faire là-dessus.
Si vous voulez, le problème, c'est toujours le problème de la chronologie. Donc vous avez une action unilatérale américaine et israélienne, évidemment, à laquelle la France l'a dit et les Européens l'ont dit, ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été associés sur l'action qui a commencé le 28 février. Ensuite, vous avez une réaction iranienne, qui elle aussi est illégale, puisqu'ils ont ciblé des pays qui n'avaient rien demandé, notamment des pays du Golfe. Et accessoirement, vous avez eu des frappes délibérées iraniennes non provoquées, par exemple, contre la base navale française aux Émirats Arabes Unis. Donc les forces françaises, elles ont été attaquées en l'occurrence par les Iraniens de façon non provoquée, puisque les Iraniens ont décidé de riposter sur les cibles qui étaient à leur portée, y compris des cibles que eux estiment être faire partie de d'une coalition qui est contre eux, mais des pays qui n'avaient pas participé à l'action, ou quand la Chypre est visée et quand les bases souveraines britanniques à Chypre sont visées, la France a des engagements, donc alors d'abord des engagements vis-à-vis de ses propres forces, vis-à-vis de ses propres forces qui ont été visées, vis-à-vis des Émirats Arabes Unis, puisqu'on a un accord de défense avec des clauses d'assistance, et là aussi c'est le droit qui le dit, et vis-à-vis de Chypre qui est un pays de l'Union Européenne, et vis-à-vis du Royaume-Uni qui est un pays membre de l'OTAN.
Pardon, allez-y monsieur Ourcade.
Oui, je pense que les logiques d'État sont importantes, les accords internationaux, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et on ne peut pas mettre sur le même plan le fait qu'Israël et les États-Unis attaquent l'Iran à froid, et de façon massive, et la réaction iranienne. La réaction iranienne est une faute politique, c'est clair.
Alors puisque vous parlez de faute politique et vous parlez à l'instant des pays du Golfe, Elie Tenenbaum, la question que je me posais moi, c'est si au fond, Téhéran s'était tiré une balle dans le pied en tirant sur les pays du Golfe, en fait. En espérant une réponse de leur part, probablement, qui n'est absolument pas ce qui est venu. J'imagine qu'ils espéraient dire aux Américains, arrêtez tout, nous ça nous ennuie. Donc ils se sont tirés une balle dans le pied ou pas ?
Ils auraient dû attendre un petit peu. Au mois de juin dernier, lors de la guerre de 12 jours, la plupart des pays de la région ont soutenu l'Iran et dénoncer l'agression israélienne. Cette fois-ci, les Iraniens ont réagi immédiatement, de façon intempestive, et je crois qu'ils ont fait une erreur. Ils s'en sont rendus compte, parce qu'ensuite, ils ont arrêté. Ils ont bombardé les sites, et apparemment, ils ont arrêté ce genre de choses. Mais ça vient aussi du fait que l'Iran est désorganisé. Et ils ont organisé leur riposte de façon en mosaïque, comme ils disent. C'est-à-dire, chaque commandant a un peu est assez autonome. Et la centralisation de la décision, elle est faite quelque part, mais pas totalement.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire réplique qu'on fait tapis, en fait.
C'est-à-dire que chaque division du territoire, il y a un commandant, et chaque commandant est le maître un peu chez lui. Et donc, un gardien de la Révolution qui est sur le détroit d'Hormuz, il pourra tout de suite attaquer quelque chose sans en référer à Téhéran. Il en référera à Téhéran, mais après coup. Et donc, on a la même chose pour le Hezbollah. On a quelquefois des situations qui échappent. Mais il faut regarder l'essentiel, qui est le fait que les acteurs ont changé. C'est l'Iran, ce sont les pays locaux. Et donc, effectivement, l'Iran s'est tiré une balle dans le pied en cassant l'amitié qui était en train de se naître avec un certain nombre de pays.
Et ces frappes qui sont sans commandement hyper central, en fait, c'est quand même intéressant. Ça dit des choses sur ce qui est devenu aussi l'armée, l'arsenal iranien. Une question pour vous, c'est celle d'Alexandre Isabelle Lasserre. Il est sur WhatsApp. Il nous dit que pensent vos invités du relatif silencieux chinois, alors qu'ils sont quand même affectés sur leur ouest entre les affrontements pakistano-afghans et maintenant donc le blocage des approvisionnements dans le détroit d'Hormuz. Isabelle.
Bah oui, alors la Chine observe avec intérêt ce qui est en train de se passer, et notamment ça peut être aussi une leçon pour la Chine, c'est-à-dire qu'avec Donald Trump, qui a été élu sur un programme de non-intervention militaire, qui avait promis de ne pas ouvrir de nouveaux fronts, notamment au Moyen-Orient, la Chine avait eu un petit peu d'oxygène dans son projet de réunifier par la force, s'il le fallait, Taïwan. Et c'est vrai que cette intervention américano-israélienne doit interroger les dirigeants chinois, qui doivent se dire aujourd'hui, est-ce que Donald Trump, finalement, ira au secours des Taïwanais si on décide, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans, de reprendre Taïwan par la force. Donc c'est effectivement une leçon. Après, c'est vrai que ça affecte l'acte anti le front anti-occidental, dont les trois têtes pensantes et agissantes sont où étaient la Russie, la Chine et l'Iran, après aidés par certains pays comme la Corée du Nord. Mais là, on voit le front anti-occidental subir des tensions. Voilà. Mais sur le droit international, c'est une question extrêmement compliquée, parce que c'est évident qu'il est violé, mais le droit international est violé par tout le monde en permanence. Le droit international est complètement à terre. L'ONU ne peut plus, n'arrive plus à garantir la paix, n'arrive plus à préserver la paix. Et le droit international, il est violé par l'Iran qui viole le traité de non-prolifération en permanence. Il est violé par l'Iran quand les gardiens de la révolution assassinent plus de 30 000 personnes en 48 heures. Il a été complètement abattu par la Russie de Vladimir Poutine. Donc c'est, à un moment, c'est extrêmement compliqué de ne se baser que sur le droit international. Quant au programme nucléaire, ça c'était la question de l'auditeur précédent, aujourd'hui, effectivement, il n'y avait pas d'urgence pour le programme nucléaire stricto sensu. Le programme balistique posait quand même un problème, mais pourquoi il n'y avait plus d'urgence sur le programme nucléaire iranien? C'est grâce aux frappes militaires israélo-américaines du mois de juin.
Celle et c'est de la guerre de 12 jours.
La guerre des 12 jours, et c'est grâce aussi à toutes les actions clandestines qui ont été menées, notamment par Israël, contre les scientifiques iraniens, les attaques cyber menées, notamment la fameuse attaque Stuxnet en 2007, qui avait fait prendre 2 ans ou 3 ans de retard en abîmant les centrifugeuses iraniens. Donc le problème nucléaire iranien, il est intact tant que ce régime reste là. Donc donc il existe quand même. C'est vrai que dans l'idéal, les Américains et les Israéliens auraient dû réagir beaucoup plus tôt. Ils auraient dû réagir pendant les émeutes et pendant les massacres perpétrés par le régime, pour se porter au secours de la population et exercer un droit d'ingérence.
Et on a entendu effectivement tout à l'heure Donald Trump dire on a attaqué parce qu'on pensait que les Iraniens allaient tirer les premiers. Enfin voilà, on pense tous la même chose de cette phrase, voilà. Qui ne veut pas dire grand-chose pour dire les choses très sincèrement. Je voudrais qu'on revienne un tout petit instant, Bernard Hourquette, sur ce qu'on disait à l'instant. Effectivement, il y a la balle dans le pied de Téhéran qui tire sur les pays du Golfe. En même temps, là, juste avant qu'on prenne l'antenne tous ensemble, Doha et Dubaï. Et ce que je trouve assez intéressant quand même avec Doha et Dubaï, ça veut dire qu'on va chercher, on va pas chercher seulement les balles américaines, on va chercher le centre économique, on va chercher ce qui peut finir par faire mal, non seulement à ces pays-là, mais aussi peut-être aux États-Unis, aux ambitions qu'ils ont dans cette région-là, avec en plus le droit de Hormuz. C'est un peu futé quand même, non? Vous croyez pas que c'est un peu futé quand même?
Je ne sais pas si c'est si sophistiqué. Dubaï, c'est l'Iran, c'est la capitale économique de l'Iran. Mm-hmm. Tous les gardiens de la révolution, tous les truands, les gens qui ont volé en Iran ont leur argent à Dubaï.
Ouais.
Ah. Et Dubaï est prospère à cause des sanctions contre l'Iran. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est le fait que cette guerre, provoquée par Israël, encore il faut bien le dire, a perturbé complètement, justement, la relation de rapprochement entre l'Iran et ses voisins. Et pour Israël, c'est un succès, cela, sachant que, en provoquant les Iraniens qui allaient effectivement bombarder les sites américains avoisinants, même quelquefois en débordant cela, ils allaient casser le rapprochement qu'il y avait entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, prenons l'élément essentiel, qui était en cours grâce aux Chinois. C'est là que les Chinois rentrent en course. Autrement dit, l'attaque israélienne, elle n'est pas contre le nucléaire, simplement le nucléaire iranien est déjà submort. Mais c'était avec le fait qu'il s'agissait d'empêcher l'Iran de devenir un pays un peu stable et organisé. Et donc, à l'intérieur, effectivement, et surtout dans la région.
Est-ce que le but maintenant est toujours celui-là? Parce que je pense aux frappes là, cet après-midi, précisément sur ce qui pourrait être le futur guide suprême, etc. Est-ce que le but d'Israël et des États-Unis, c'est aussi d'empêcher justement de voir la réémergence d'un nouveau leader, en espérant quoi d'ailleurs?
Encore une fois, en déstabilisant et en affaiblissant le régime autant que possible, et donc en éliminant ses cadres et son ossature dans ses différentes composantes, aussi bien religieuse, politique institutionnelle, qui est la partie la moins visée, et puis militaire et milicienne avec les gardiens de la révolution, et du côté iranien, il s'agit donc se disperser pour mieux survivre, avec la défense aux mosaïques qui était évoquée, et d'augmenter autant que possible les coûts pour non seulement Israël et les États-Unis, mais bien pour la communauté internationale, pour le monde entier, et en essayant essayant de bloquer le détroit d'Ormuz en faisant flamber les prix du pétrole, en tapant sur les infrastructures énergétiques des pays. En fait, c'est ce qu'ils essaient de faire pour, faute de capacité à faire payer leurs adversaires principaux, finalement essayer par une mécanique de réverbération, essayer d'augmenter le coût pour que peut-être d'autres arrivent à faire pression. Et donc c'est bien une stratégie du pire assumée, à mon avis, du côté iranien, simplement faute de mieux, parce que leurs adversaires principaux ne sont plus à leur portée.
Et parce que, du coup, personne ne peut émerger jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure, Bernard Ourcade, de affaiblir, donc dominer, c'est ça que ça dit, en fait.
Dominer, oui, mais il faut oublier le nationalisme iranien. Tout le monde parle de guerre civile, de division de l'Iran, en fracture. Quand un pays est attaqué, il y a une union. Trump attaque l'Iran, aidant à favoriser les plus radicaux, qui disent aujourd'hui, regardez, la patrie est en danger, et on ne peut pas manifester aujourd'hui. Trump dit manifester. Quand il y a un bombardement, on ne peut plus manifester. Autrement dit, il a empêché complètement les oppositions intérieures à l'Iran de s'exprimer parce que la guerre empêche ce genre de choses. Tout en disant, allez-y.
Enfin, c'était surtout les massacres qui empêchaient. S'il n'y en avait plus jusqu'avant les bombardements, c'est parce que 36 000 personnes sont mortes.
Oui, 30 000 personnes sont mortes. Mais c'est un phénomène, une question intérieure. Et le but de ces massacres a été notamment d'empêcher qu'il y ait un accord Iran-États-Unis qui aurait permis l'émergence de quelque chose. N'oublions pas le nationalisme iranien qui n'est pas mort. Et le prochain gouvernement iranien, quel qu'il soit, sera peut-être encore moins sympathique, pas plus sympathique, mais plus retors que le gouvernement actuel qui était affaibli.
Voilà, et ça c'est pour le scénario optimiste qui était le vôtre, Isabelle Lasserre, au début de l'émission.
Bah, écoutez, oui, enfin, je persiste avec la possibilité de ce scénario optimiste. En général, en Occident, on n'aime pas du tout, on aime bien le statu quo parce qu'on a peur du désordre inconnu et on préfère le désordre connu avec les têtes de régime connues à l'inconnu total. Et on avait déjà fait la même erreur à la chute de l'Union soviétique quand Gorbatchev était un homme complètement fini et qu'il était évident, enfin moi j'étais en Russie à cette époque-là, que Boris Eltsine était la personnalité qui montait et on refusait de le voir, notamment en France où Jacques Chirac avait refusé de recevoir Boris Eltsine en se disant il faut surtout pas que l'Union soviétique s'effondre parce que on c'est des salauds, mais c'est les salauds qu'on connaît. Et je sais pas du tout, mais il est pas du tout. Enfin, je crois qu'il est pas du tout prévu dans le plan américano-israélien de demander aux opposants de manifester maintenant pendant les bombardements.
Ah ben certes,
c'est
non. En tout cas,
le jour d'après,
on n'en prend pas le chemin.
Ils seront peut-être épaulés les opposants.
Isabelle,
j'en sais rien.
Pardonnez-moi, mais je suis obligée de vous couper parce que comme le président va parler dans peu de temps, si on lance pas la pub maintenant, c'est foutu.